Mesdames, Messieurs, j'étais très sensible à l'invitation qui m'a été faite de venir parler ici et aujourd'hui d'Émile Zola. Chacun comprendra que ce ne soit pas de l'écrivain Émile Zola dont je fasse l'éloge. Ce n'est pas que, comme nous tous, je n'ai, à ma façon, vécu avec lui et conservé en moi cette œuvre maîtresse. Chacun comprendra aussi que je n'envisage pas de faire devant vous aujourd'hui le récit si souvent retracé de l'intervention de Zola qui fut à coup sûr décisive dans l'affaire Dreyfus. J'ai choisi une autre approche. J'ai tenté de retrouver, et je veux tenter d'évoquer aujourd'hui devant vous, en ce pèlerinage annuel des amis d'Émile Zola, ce qu'a vécu, ce qu'a souffert l'homme Émile Zola, ce qu'a signifié en termes d'épreuves son combat pour la justice et pour la vérité. Au-delà du combattant, j'ai voulu retrouver l'homme. Au-delà de l'histoire, j'ai tenté de rechercher la dimension humaine de la lutte. En un mot, je souhaite évoquer devant vous la passion judiciaire d'Émile Zola, et c'est à dessein que j'utilise le terme de passion, parce que je crois qu'il recouvre bien à la fois l'âme et le destin d'Émile Zola. D'abord une interrogation. Pourquoi son engagement? Sans doute, il y a toujours un moment dans la vie d'un homme où l'injustice interpelle sa conscience. Et plus encore, quand il s'agit d'un homme de vérité et quand l'injustice est fondée sur le mensonge. Et il est évident qu'à ces deux titres, Zola ne pouvait pas échapper à l'affaire Dreyfus. Mais Zola aurait pu, comme tant d'autres, lutter simplement avec les armes du talent, avec celles de la conviction, aux côtés de France ou de Lucien R., aux côtés de Peggy ou de Blum. Délibérément, et c'est de là dont je crois il faut partir, Zola a choisi la place la plus exposée. Il fut ce volontaire rêveur. À cette nuit du 12 janvier 1898, où la lampe brûla jusqu'à l'aube dans le bureau de Zola, à la surprise des voisins, qui savaient que M. Zola était plutôt un écrivain du matin, et qu'il était de ceux dont le génie, pour s'exprimer, préfère le rythme tranquille de l'artisan. Cette lampe, dessinant son cercle de lumière, dans cette nuit tranquille d'un immeuble au cœur d'un quartier bourgeois dans la grande ville ensommeillée. Ce cercle d'or dans les ténèbres de l'injustice qui ensevissait la France. Comment Zola aurait-il pu dormir cette nuit-là? Depuis 48 heures, le mensonge, l'injustice, le crime même, triomphait et semble-t-il de façon définitive. Esterhazy, le coupable, avait été acquitté le 11 janvier à l'unanimité par le Conseil de guerre.
Picard, l'homme de vérité, avait été mis aux arrêts, était accusé d'avoir fabriqué le petit bleu. Scheurer Kastner, juste entre les justes, avait été évincé de la vice-présidence du Sénat. Selon les paroles de Léon Blum, nous étions là, atterrés, désespérés devant les débris de notre œuvre manquée entre nos mains. Ce fut un de ces moments où toute croyance se retire, où l'on se sent perdu et isolé dans un monde à jamais hostile. Zola, lui, ne pouvait accepter en ces termes cette défaite ni cette humiliation. De son refus est né cette nuit-là, j'accuse, le cri le plus fort qu'ait jamais jeté la conscience humaine à la face de l'injustice. L'histoire en fut certes changée, mais à quel prix pour Zola? Sans doute avait-il, tout au long de sa carrière, connu l'insulte et la calomnie. Elles sont d'ailleurs les compagnes inévitables de ceux qui refusent la commodité des chemins battus, l'hypocrisie du conformisme et qui ouvrent à l'art ou à la pensée des voies nouvelles. Mais entre tous, Zola avait été la cible privilégiée de l'ordre établi, de ceux pour lesquels le simple fait de penser, de sentir, de s'exprimer autrement est déjà comme une menace pour l'ordre établi. Et surtout, Zola les avait mis à nu. La société bourgeoise de la fin du XIXe siècle n'avait pas assez changé depuis le Second Empire pour qu'Eugène Rougon ne fût toujours présent à la Chambre, Saccard à la Bourse, Nana aux Champs-Élysées et Lantier à l'Assommoir. L'état-major qui avait vécu Sedan n'oubliait pas la débâcle, ni le clergé, la conquête de Plassans, et les possédants voyaient se lever dans Germinal les aubes tant redoutées. On ne défie pas sans risque une société à laquelle on représente son vrai visage. Cette nuit-là, l'homme qui écrit « J'accuse » n'ignore rien de la haine qui l'entoure. Certes, à force de lutte, il a conquis succès, gloire, considération même, et puis le bonheur. En tout cas, autant que son âme inquiète lui permettait de l'éprouver. Cet homme de 58 ans, enfin comblé, savait bien tout ce qu'il avait à perdre en se jetant dans la mêlée, en publiant « J'accuse ». Et je pose la question, qu'avait-il donc à y gagner, sinon à accomplir sa passion? Il savait bien que rien ne résiste à la force de la vérité, mais il savait aussi qu'il n'est pas d'homme qui puisse refuser de répondre à l'appel de la justice, sauf à perdre pour toujours l'honneur d'être un homme. Mais il savait aussi, Zola, que le défi qu'il jetait au nom de la conscience humaine, au crime et au mensonge, serait relevé contre lui par les forces les plus puissantes du pays. Il était trop lucide à son âge pour ne pas mesurer aussi le prix qu'il aurait à en acquitter en souffrance. Et c'est cette lucidité, à l'instant de l'engagement, qui fait de Zola un héros de justice. Au matin du 13 janvier 1898, Lorsque Zola porta son texte à l'Aurore, qu'il le tendit à Vaughan et à Clémenceau, son choix était fait. Car après J'accuse, la mise en accusation de Zola était inévitable. Devant la France entière, il avait souffleté le ministre de la guerre, l'état-major, les chefs des renseignements, les bureaux de la guerre, en les dénonçant tous comme des traîtres à la vérité. Le défi était jeté publiquement, rappelez-vous, qu'on me traduise donc en cour d'assises et que l'enquête ait lieu en plein jour. Le gouvernement de l'époque était lâche, mais il ne pouvait reculer sous peine d'avouer. Ce fut donc le procès Zola. De ces audiences, le temps nous permet aujourd'hui de prendre la dimension historique. Il est vrai que sans le procès, sans Laborie, sans Picard, jamais n'aurait été publiquement reconnu par le général de Pellieu l'existence du dossier secret qui rendait dès lors inévitable la révision, et jamais non plus ne serait apparu aussi crûment la collusion du mensonge et de l'antisémitisme, des intérêts politiques et d'une conception aberrante de l'honneur de l'armée, préférant couvrir le crime plutôt que de le châtier et dénonçant ceux qui voulaient établir la vérité comme des faussaires et des traîtres. Ainsi, il est vrai, grâce au procès Zola, la vérité reprit sa marche, que l'acquittement d'Esterhazy semblait avoir définitivement suspendu. Mais pour Zola lui-même, pour cet homme de cabinet, pour ce bourgeois paisible, quelles épreuves dans cette bataille judiciaire! Sans doute, l'écrivain, par habitude ou tempérament professionnel, notait par touches brèves, au long des audiences, je cite, la façon esthétique dont se composent les audiences comme autant d'actes d'un drame poignant construit par un grand artiste, sans oublier naturellement le milieu pittoresque, l'assistance, les avocats, les dessinateurs, les têtes à gifles, le jury muet, sans une question, et les effets de jour, les nuages qui passent et qui assombrissent la salle, les coups de soleil sur le mur quand je regarde en l'air, et la fin de la séance lorsqu'on allume le gaz. Mais ce refuge dans l'observation, cette volonté de détachement dans la contemplation, n'effaçait pas l'épreuve de l'arrivée au milieu des bandes hurlant leur haine, que la police ne retenait que bien mollement et au tout dernier moment, devant le fiacre qui conduisait Zola au palais, ni l'humiliation du départ au terme des audiences par des itinéraires dérobés qui donnaient le sentiment de fuir à l'homme dont toute la volonté était d'affronter la meute, ni la quotidienne abjection d'une partie de la presse qui avait trouvé en Zola, déjà détesté par beaucoup de ses lecteurs, le bouc émissaire idéal. À relire les journaux de l'époque, de la libre parole au petit parisien, un haut-le-cœur nous saisit encore à un siècle de distance. Et l'on comprend, devant les infamies où se complaisaient certains écrivains, certains caricaturistes de l'époque, et non des moindres, le propos de Madame Zola, écrivant à Madame, le propos de Zola, pardon, écrivant à Madame Alfred Dreyfus, depuis que nous nous battons pour la vérité et la justice, l'ignoble flot a tellement grossi autour de nous que nous en sortons cuirassés à jamais, invulnérables aux blessures. Pour mon compte, Il est des feuilles immondes, des hommes debout que j'ai rayés de ma vie. Ils ne sont plus. Je passe leur nom quand ils me tombent sous les yeux. Je saute jusqu'aux extraits qu'on peut citer de leurs écrits. C'est de l'hygiène, simplement. J'ignore même s'ils continuent d'exister. Mon mépris les a chassés de ma pensée en attendant que l'égout les prenne tout entier. Mais surtout, on l'oublie trop, il y eut la douleur secrète de la condamnation. Nous oublions aisément aujourd'hui à voir se dérouler l'affaire Dreyfus comme un film à épisodes dramatiques dont chacun connaît par avance la fin heureuse, que l'affaire Dreyfus, c'est d'abord une série éclatante de décisions judiciaires qui bafouent la justice. C'est Dreyfus innocent, condamné deux fois, une première fois en 1894 au mépris de la loi et une deuxième fois en 1899 au mépris de la vérité. C'est Picard, arrêté, jeté hors de l'armée pour faute grave dans le service. C'est Zola, par trois fois, condamné pour diffamation, c'est-à-dire pour avoir menti. Pourquoi ? Pour avoir écrit « J'accuse ». C'est aussi Esterhazy, lui, acquitté à l'unanimité par le Conseil de guerre, alors que l'on savait qu'il était l'auteur du bordereau qui avait fait condamner Dreyfus. C'est Déroulède, acquitté, lui aussi, par la cour d'assises de la Seine, pour avoir voulu prendre d'assaut l'Élysée à la veille de l'arrêt de révision. Jamais, dans aucune affaire, l'on a vu aussi constamment l'innocence condamnée et le crime absous. Et c'est, en définitive, à la cour de cassation, à ces magistrats, dont Rochefort appelait la foule à crever les yeux, que la justice française doit d'avoir sauvé son honneur. Ce jour du verdict, le 23 janvier, l'attente fut interminable. Zola dut demeurer terré dans un cabinet de magistrats, tandis que la foule autour du palais clamait sa joie du verdict qui le condamnait à un an de prison ferme, le maximum de la peine. Enfin, écrit Zola, nous sommes partis vers 8h30, par le pont Neuf et le quai, le pont de la Concorde, la place de la Concorde, au milieu d'un Paris brumeux, vide, muet, noir. Zola avait lutté. Zola avait gagné, puisque la vérité avait enfin été publiquement dite et que, dès lors, rien ne pouvait plus l'arrêter. Mais ce soir-là, Zola n'était plus qu'un homme condamné par les juges de son pays, vide, muet, noir, le ciel de Paris n'était que le reflet de l'âme de Zola épuisée. De pires épreuves l'attendaient encore. Je ne parlerai pas des insultes qu'il accompagnait partout, ou des lettres abjectes qu'il recevait chaque jour, ou pire encore, des dessins immondes qu'on adressait à sa fillette, où il était représenté, les yeux arrachés, ou recevant l'or à poignée du syndicat juif, ou marionnette dont Guillaume II tirait les ficelles, ou bien crachant sur le drapeau tricolore, ni de sa suspension de l'ordre de la Légion d'honneur, ni de l'agression dont il fut victime, ici, très près d'ici, à Médan, par un groupe d'hommes, dont 9 soldats qui le mitraillèrent de cailloux, ni du second procès devant la cour d'assises de Versailles, le 23 mai 1899, dont la première audience fut préparée par le Petit Journal, publiant le matin même du procès une biographie mensongère de François Zola, son père, appuyée sur des faux et le représentant comme un escroc, ni de sa condamnation le 9 juillet pour diffamation à une peine de prison et à des dommages-intérêts considérables au profit des trois experts graphologues qui avaient accablé Dreyfus en lui attribuant la paternité du bordereau dont on savait pourtant maintenant qu'il était l'œuvre d'Esterhazy. Non, je ne parlerai pas de ces épreuves-là. La pire pour Zola, ce fut l'exil. Qu'on me pardonne une réflexion. Pour Laborie, qui était un grand stratège judiciaire, il importait avant tout, et je le comprends parfaitement, que la condamnation qui avait été prononcée à Versailles et au dernier moment par défaut contre Zola ne devienne pas définitive avant que la Cour de cassation n'ait pu se prononcer sur la demande en révision. Pourquoi ? Parce que pour Laborie, il fallait que Zola puisse un jour comparaître à nouveau devant des juges et après que la Cour de cassation ait établi l'innocence de Dreyfus et par conséquent la véracité de J'accuse. Pour Laborie donc, pénétré de sa stratégie judiciaire, Zola devait quitter la France, éviter que l'arrêt lui soit signifié, en un mot disparaître et disparaître à l'étranger jusqu'à ce que la vérité ait fait des progrès décisifs. Mais pour Madame Zola, au contraire, mieux valait que la passion de Zola s'accomplit en entier. Mieux valait qu'il assumât l'épreuve jusqu'à son terme, qu'il accepta la prison et que pas une seconde il n'eut l'air de fuir. L'intelligence était du côté de Laborie, le cœur du côté de Madame Zola. La plupart, je dirais presque tous les amis consultés, opinèrent pour le départ. Zola s'y résigna. Permettez-moi, après y avoir longuement réfléchi cet été, de vous dire que ce choix de Laborie, je le regrette. Imaginons, en effet, un instant, l'écrivain arrêté, conduit à la santé entre deux gendarmes. Zola incarcéré aurait été la réplique vivante de Dreyfus au bagne. À l'innocence enchaînée à l'île du diable aurait répondu la vérité emprisonnée à Paris. La souffrance de l'un faisant écho au martyr de l'autre dans une affaire où tout était devenu symbole, il y aurait eu dans cette accumulation parallèle d'injustice et de douleur une telle puissance de mobilisation des consciences que la honte de l'emprisonnement de Zola, s'ajoutant à l'infamie de la détention de Dreyfus, aurait fait exploser, j'en suis sûr, les verrous de l'injustice. Et puis, imaginons les détails. Zola conduit à la santé au milieu de la foule hurlant sa haine contre lui, comme jadis contre Dreyfus, dans la cour de l'école militaire. Zola, visité jour après jour dans sa prison par tout ce que la France et l'Europe auraient compté de plus grand et de plus noble dans le monde de la pensée et des arts. Et jour après jour, les manifestations et les contre-manifestations se succédant devant les murs où Zola aurait été détenu. Pas un gouvernement n'aurait pu résister longtemps à un tel soulèvement des consciences. Et Zola, magnifié par sa détention, refusant de demander sa grâce, attendant dans sa cellule l'aurore inévitable de sa libération forcée par les progrès de la vérité, les aveux et le suicide d'Henri, la démission de Boisdeffre, la fuite à l'étranger d'Esterhazy. Et imaginons, mes amis, le triomphe de Zola quittant la prison, porté sur les épaules des membres de la Ligue des droits de l'homme, entouré du bataillon sacré de tous les hommes de justice et de vérité. Oui, j'en suis convaincu, l'épouse voyait plus clair que l'avocat. Madame Zola avait raison contre Laborie. L'heure n'était pas à l'habileté, elle était à la passion. Et alors, l'édifice monstrueux du mensonge aurait été balayé plus vite par la force irrésistible de nez de la vision de l'écrivain martyr de l'injustice. Et sans doute le fut-il, mais dans le secret, mais dans le silence. Et dès lors, en une telle bataille, presque inutilement, il avait fui Zola, non par peur, mais par raison, à la souffrance de l'exil, pour cet homme pour lequel la France et Paris étaient presque tout, patrie spirituelle, mais aussi patrie charnelle. À la souffrance de l'exil s'ajoutait dorénavant la cruauté du silence, car pour ne pas être découvert, il fallait pour Zola non seulement se cacher, mais se taire. Quelques lettres à des amis, de rares visites, la lecture des journaux, c'était par ces moyens dérisoires qu'il participait encore au grand combat. Et au fond de lui-même, l'interrogation tenace devait sans cesse revenir. Ai-je bien fait de partir ? Où aurais-je été le plus utile ? À Paris ou à Londres ? Et puis pour un homme d'un tel courage moral, quelle souffrance d'accréditer par son exil l'ignoble campagne sur sa lâcheté ! Quelle souffrance d'avoir l'air de fuir la justice de son pays par crainte du châtiment. Quelle douleur a dû ressentir Zola tout au long de l'automne 1898 dans les douceurs de la campagne anglaise et ensuite tout au long de l'hiver et du printemps 1899 à Londres. Sans doute, Jeanne et les enfants l'avaient rejoint. L'amour, le travail, qui sont les seuls baumes inépuisables, apaisaient sa peine. Mais je leur ai dit, mieux aurait valu pour Zola être ce Prométhée enchaîné, faisant entendre du fond de sa cellule la voix même de la justice. Et je suis sûr que Zola, grand artiste entre tous, ne pouvait pas ne pas ressentir au fond de lui-même, dans ces mois-là, la force de cette vision. Et à la douleur de l'exil volontaire s'ajoutait donc la cruauté du silence forcé, le doute quotidien sur le choix fait. En vérité, Zola, sa correspondance, le cri à travers les lignes, Zola a sans doute plus souffert dans ce Londres paisible que dans le tumulte et les invectives du Paris de l'injustice. Cependant, le cours des choses s'y inversait. Félix Faure, destinataire insensible de J'accuse, venait à mourir. Loubet lui succédait. La Cour de cassation annulait le 3 juin 1899. L'arrêt de 1894, Dreyfus était renvoyé à nouveau devant le Conseil de guerre pour y être jugé, cette fois-ci à Rennes. Le 5 juin, Zola regagnait la France. Il publiait, après 11 mois de silence, son premier article intitulé « Justice ». Le 1er juillet, Dreyfus, à son tour, débarquait en France. Le 18, Esterhazy se reconnaissait dans le Matin comme étant l'auteur du bordereau. La victoire de la vérité paraissait certaine. Et ce fut le désastre, la honte pour notre justice. Le 9 septembre 1899, après un mois d'audiences indignes à Rennes, Dreyfus, par 5 voix contre 2, fut à nouveau déclaré coupable d'intelligence avec une puissance étrangère. Mais le conseil de guerre lui reconnut des circonstances atténuantes, lesquelles, et le condamna à seulement 10 ans de réclusion. Face à ce monstrueux verdict, bien pire que le premier, parce que les juges ne pouvaient ignorer l'innocence de Dreyfus, parce qu'il ne s'agissait plus cette fois-ci d'une erreur judiciaire qui peut advenir, mais bien d'un crime judiciaire. Zola, hors de lui, souffrant physiquement d'un tel attentat à la conscience humaine, dès le lendemain, écrivit, ou plutôt jeta un nouveau cri de révolte. « Je suis dans l'épouvante. » Quand on aura publié le compte-rendu in extenso du procès de Rennes, il n'existera pas un monument plus exécrable de l'infamie humaine. L'ignorance, la sottise, la folie, la cruauté, le mensonge, le crime s'y étalent avec une impudence telle que les générations de demain en frémiront de honte. Et Zola, pour montrer qu'il ne concédera jamais rien à l'injustice, jette à nouveau le défi. Rendez-vous à Versailles le 23 novembre. Ce jour-là, en effet, le procès de Jacuse devait recommencer. Et en ce nouveau débat résidait toute l'espérance de Zola de voir enfin proclamer publiquement en justice l'innocence de Dreyfus, et aussi, voir reconnaître par des juges le bien fondé, la vérité de son accusation à lui, Zola, de son j'accuse. Eh bien, cette satisfaction-là, cette réparation-là, elle ne lui furent jamais donnée. Jamais le procès Zola ne sera replaidé devant des juges. Jamais Laborie ne plaidera plus pour Émile Zola. L'affaire sera renvoyée de mois en mois. Et Zola jamais ne se verra ainsi reconnaître par la justice son innocence. Pour avoir écrit « J'accuse », l'acte qui a le mieux servi la justice dans toute notre histoire. Car dorénavant, l'heure politique est à l'apaisement, ou plutôt à l'étouffement. Le 19 septembre, le président Loubet gracie Dreyfus. On comprend Dreyfus et sa famille d'avoir accepté cette grâce. On comprend aussi que Laborie et Clémenceau ne s'y soient jamais résignés. Pardonner à l'innocence, c'était bien l'outrage ultime à la justice. Zola, lui, dans son admirable lettre à Madame Dreyfus, a compris et les uns et les autres. Sans doute, Madame, cette grâce est amère. Mais il faut oublier, Madame. Il faut surtout mépriser. Et Zola conclut, nous autres, madame, nous allons continuer la lutte, nous battre demain pour la justice, aussi âprement qu'hier,
Zola n'en eut pas le temps. Après l'humiliation de la grâce, la confusion de l'amnistie, le 14 décembre, par une même loi, tous furent amnistiés, Picard comme Mercier, Reinach comme Dupaty Duclam et Zola comme Esterhazy. Il fallait apaiser la France, disaient les politiques. Pour y parvenir, on faisait table rase, on jetait ensemble dans une confusion insupportable. Et ceux qui avaient commis le crime, et ceux qui l'avaient dénoncé, et ceux qui avaient nourri l'injustice, et ceux qui avaient servi la justice, et les faussaires, et les hommes de vérité. Le 22 décembre 1900, l'Aurore publia une nouvelle lettre au président de la République, signée Émile Zola. Elle résonne étrangement comme un adieu. À l'indignation, ne trouvez-vous pas que la loi de votre gouvernement qui m'amnistie, moi innocent, dans le tas de coupables que j'ai dénoncés, est vraiment une loi scélérate ? Succède l'ironie. On nous a bien promis, en dédommagement, la justice de l'histoire. C'est un peu comme le paradis qui sert à faire patienter sur cette terre les misérables dupés que la faim étrangle. Et l'on ajoute que lorsque nous serons tous morts, c'est nous qui aurons les statues. Zola ne connaîtra jamais la revanche. Par une forme souveraine de mépris, il refusera même à Laborie de plaider contre les experts graphologues, je l'ai rappelé, qui avaient accablé Dreyfus et qui avaient fait condamner Zola à leur verser pour avoir dénoncé simplement leur incompétence des dommages-intérêts considérables. Je ne vous vois pas, écrit-il à Laborie, disputer en mon nom 5000 francs à Judet. C'était le directeur du Petit Parisien condamné pour ses faux envers le père de Zola, François Zola. Ou bien pour rattraper les 30 000 francs des experts. Et il rappelle Zola à Laborie que son éditeur avait dû verser pendant son exil en Angleterre 7 500 francs en paiement des amendes et des frais du procès de Versailles. Pensons à Méline. Accusant Zola à la tribune de la Chambre de n'avoir écrit « J'accuse » que pour augmenter le tirage et la vente de ses livres. Pensons aux accusations constamment répandues et constamment reprises contre Zola d'être le valet de plume payé par les Juifs ou par l'empereur d'Allemagne. En réalité, l'affaire Dreyfus a coûté à Zola 50 000 francs or, près de la moitié de ce qu'il avait, avec son sens bourgeois de l'économie, épargné en une vie de labeur forcené. Non pas que Zola attachât de l'importance à l'argent, son comportement en témoigne, mais là encore, comment n'aurait-il pas ressenti comme une blessure secrète le contraste entre son désintéressement profond et la cupidité forcenée où ses ennemis voulaient voir la source de son engagement ou, pour employer leur terme, de sa trahison. Rappelant la hâte des experts à faire vendre ses meubles pour toucher le prix de l'injuste condamnation, Zola disait à Laborie, leurs trois noms sont à jamais gravés sur un monument impérissable. Laissez-les galoper avec les poches pleines, qu'ils gardent l'argent. Et il y aura dans l'affaire un peu plus de bassesse. C'est sur cette amertume qui révèle la plaie ouverte et jamais refermée que s'achève son histoire. Dans sa lettre au président Loubet, Zola avait une seconde laisser filtrer l'aveu, un peu de justice sur cette terre nous aurait pourtant fait plaisir. Elle lui sera refusée. Le 29 septembre 1902, Zola fut trouvé mort asphyxié dans sa chambre. L'enquête conclura à l'accident. Beaucoup refuseront d'y croire. Trop de haine environnait encore l'auteur de J'accuse. Trop de fureur meurtrière aussi. Celle qui avait fait tirer sur Laborie pendant le procès de Rennes. Celle qui blessera Dreyfus lors du transfert des cendres d'Émile Zola au Panthéon en 1908. Celle qui anime Rochefort, écrivant au lendemain même de la mort de Zola un article immonde. Et même si une foule immense accompagne Zola le 5 octobre au cimetière Montmartre, même si Anatole France salue le héros par les mots que de génération en génération nous répétons pieusement, sa destinée et son cœur lui furent le sort le plus grand, il fut un moment de la conscience humaine. Même si Zola demeure présent en chacun de nous, par son œuvre et par son exemple, il reste que Zola, vivant, n'aura jamais connu. Le triomphe de la vérité et de la justice auquel il aspirait tant et auquel il avait tant sacrifié. Il fallut attendre le 5 mars 1904 pour que soit déclarée recevable la nouvelle requête en révision présentée par Dreyfus lui-même. Le 12 juillet 1906, pour que la Cour de cassation casse enfin sans renvoi le verdict de Rennes et prononce la réhabilitation de Dreyfus. Le lendemain, Dreyfus est réintégré dans l'armée comme chef d'escadron, Picard comme général de brigade. Justice est faite. Enfin, mais Zola, lui, il ne l'aura pas salué sur cette terre. De l'entreprise qu'il a conduite au service de la justice et de la vérité, Zola n'aura éprouvé que les luttes, les blessures, jamais la victoire, seulement le combat. Libérateur de la vérité, il est mort sur la route de la libération. Sans doute, sans lui, la justice aurait fini par l'emporter. Mais sans Zola, assurément, la victoire n'aurait pas revêtu le même éclat, la même force qui fait que, d'âge en âge, à chaque fois que se lève l'injustice des hommes qui se dressent et qui la combattent, rappelle le nom de Zola. Et c'est en pensant à l'homme Zola qu'à mon tour, je répéterai les mots mêmes qu'il adressa à Alfred Dreyfus le jour où celui-ci retrouva la terre de France. Mon cœur déborde. Et je ne puis que vous envoyer toute ma fraternité pour ce que vous avez souffert. Et c'est ce que nous avons de meilleur, de plus noble, de plus tendre que je voudrais mettre dans cette lettre pour que vous sentiez que tous les braves gens sont avec vous et nous, voilà.